Chapitre 4. Sans oublier leur nouvelle destination, mais en doutant de l'importance que lui avait accordée Rouge, Nathan et Nietzsche voyagèrent des semaines durant dans les terres noires avant d'accéder à une région plus peuplée de Dara. À partir de là, ils empruntèrent des routes très fréquentées et s'arrêtèrent dans des auberges où on leur servit de délicieux repas. Un bonheur après avoir subsisté grâce à la chasse et à la cueillette. Dans le même ordre d'idées, dormir dans de vrais lits leur regonfla le moral. Quand il était guide forestier, Richard adorait ouvrir des pistes dans des contrées inexplorées. Citadine dans l'âme, Nietzsche préférait la civilisation et Nathan ne crachait pas sur le confort. En chemin, l'ambassadeur et sa protectrice collectèrent des informations et annoncèrent à tout le monde la victoire du seigneur Ral sur l'empereur Sulakan. Dans le sud de Dara, peu de gens étaient au courant des derniers événements, mais tous avaient vu que le ciel n'était plus le même. Leur curiosité éveillée, ils écoutèrent avec intérêt les deux voyageurs. Dans une longue succession de salles communes bien chauffées, Nathan tint conférence avec toute la superbe que Nietzsche lui connaissait.
« Pour être franc, la fin des prophéties signifie que vous pouvez vivre comme vous l'entendez et prendre les décisions qui vous chantent. Ancien prophète, je parle en connaissance de cause. Les prédictions, tout compte fait, étaient plus nocives que bénéfiques. En d'autres termes, bon débarras. »
Quelques devins et oracles locaux se révélèrent moins enthousiastes. Ceux qui avaient vraiment le don reconnaissaient avoir perdu leur pouvoir. Les charlatans, eux, continuaient à vendre leur salade à des pigeons. Sans douceur, Nathan leur intima l'ordre de se dénoncer et de cesser d'escroquer les gens. Pour Nietzsche, la chasse aux fraudeurs n'était pas une mission capitale, et elle voyait mal comment ça sauverait le monde. Très vite, elle se concentra sur son deuxième objectif, gagner l'Ancien Monde, explorer de nouvelles parties de l'Empire et aider Nathan à découvrir Kol Adar. Tanimora serait le point de départ de cette quête. Cité portuaire la plus au nord de l'Ancien Monde, c'était aussi le principal carrefour commercial de cette région. À l'approche de la côte, l'air se chargea de relents iodés. Sur la route qui traversait les collines, le trafic devint plus dense. Régulièrement dépassés par de nobles cavaliers en voyage d'affaires, de longues colonnes de chariots et de charrettes convoyaient toutes sortes de biens consommables vers les marchés de la mégalopole. Sous un soleil de plomb, Nathan assurait la plus grande partie de la conversation. Un soulagement pour Nietzsche, soucieuse de garder son énergie pour la marche. Au sommet d'une colline, Tanimura apparut enfin en contrebas. Bâtie sur une péninsule, la ville venait mourir au bord de l'océan. À l'ouest où il se jetait dans la mer, le fleuve Kern avait creusé une large vallée. Autour de la cité, des champs cultivés et des villages occupaient tout l'espace laissé libre par la forêt. Mais Nietzsche s'intéressa surtout aux bâtiments blancs de la grande agglomération en constante expansion. Nathan s'arrêta et mit une main en visière.
« Une vue magnifique. Pense à toutes les possibilités que Tanimura nous offre. »
Le sorcier tira sur le devant froissé de sa chemise.
« Par exemple, en matière de vêtements neufs. »«
Voilà des années que je ne suis plus venu ici. »
souffla Nietzsche. Plissant les yeux, elle chercha à distinguer ce qui avait changé de ce qui restait immuable.
« Après m'être évadé du palais, » grogna Nathan, « je pensais bien ne jamais revenir, et pourtant nous revoilà tous les deux. »
Au bord de l'eau, le port de Graffan grouillait d'activité. De gros navires militaires ou commerciaux y côtoyaient des bateaux de pêche aux voiles triangulaires.
« Je vois qu'ils ont reconstruit le quai, »
dit Nietzsche avec un petit sourire. Dans ce port, avec une autre sœur de l'obscurité, Nietzsche avait détruit le Dame Sepha, un bateau sur lequel elles avaient été prisonnières. L'empereur Jagang leur ayant permis de se venger du capitaine Blake et de son équipage, elles ne s'étaient pas montrées tendres avec les chiens qui les avaient battus et violés. À vrai dire, elles avaient même pris un grand plaisir à les écorcher vifs avant d'utiliser la magie soustractive pour écrabouiller le Dame Sepha comme un vulgaire insecte. Une fois le navire coulé, elles avaient déchaîné leur courroux sur tout le port de Graffan. Même si cet événement appartenait à la période trouble de son passé, Nietzsche sourit à son évocation. Les yeux braqués sur la ville, Nathan aussi remontait le temps.
« Chère magicienne,
Je doute que nous ayons laissé un bon souvenir à Tanimura. L'accueil risque d'être un peu chaud, si j'ose dire. »
Nathan observait une grande île au sud de la péninsule. Pendant longtemps, Halsband avait été relié à la cité par un pont de pierre qui donnait accès au palais des prophètes. Cette prison destinée aux hommes nés avec le don s'était dressée là des millénaires durant, protégée par une série de champs de force et enveloppée d'un sortilège qui gardait ses occupants presque éternellement jeunes. Avec une toile de lumière, Nathan avait détruit le palais afin que ses trésors magiques ne tombent pas entre les mains de Jagang. Désormais, l'île n'était plus qu'un champ de ruines, et à première vue, depuis 6 ans, personne n'avait eu l'idée de revenir s'y installer. Malgré son amertume, Nathan se fendit d'un sourire.
« J'ai passé 1000 ans sur cette île. Pour commencer une nouvelle vie, rien de mieux qu'effacer tous les vestiges du passé. »
Écartant sa cape, il tapota la sacoche qui contenait son nouveau livre de vie et la mystérieuse prédiction.
« Avant de devenir trop vieux, en route pour de nouvelles aventures. Tous les deux, nous ne sommes pas habitués à subir les assauts du temps comme n'importe qui. Prends garde à toi, Tanimura !»
Nietzsche s'engagea sur la route menant à la cité. À un moment, un char à bœufs chargé de melons et conduit par un vieux fermier les dépassa. Un chapeau de paille sur la tête, le type fixait la route comme si c'était une des merveilles du monde. Quand Nathan lui demanda s'il voulait transporter 2 voyageurs, il fit signe que ça ne le dérangeait pas.
« On dirait des têtes coupées, »
fit Nietzsche en s'emparant d'un des melons. « Que la route monte ou descende, le bœuf marcha au même pas. » Les yeux mi-clos, la magicienne se souvint des boulevards bordés d'arbres, des grands bâtiments blancs, des toits de tuiles. Au sommet des tours, l'étendard pourpre de la ville battait au vent à côté du drapeau de l'Empire d'Aran. En chemin pour Alterrang, Richard et elle avaient fait étape à Tanimura. À l'époque, elle le forçait à jouer le rôle de son mari, avec l'espoir de le convertir à la cause de l'ordre impérial. Elle était si passionnée, déterminée, impitoyable et naïve. C'était ici, à Tanimura, que le sorcier avait appris à sculpter. À ce souvenir troublant, Nietzsche se rembrunit.
« Sorcier, nous ne nous attarderons pas. Après avoir acheté ce qu'il faut pour un long voyage, nous prendrons un bateau qui nous conduira au sud. Je parie que tu as hâte de trouver ton colader.
D'autant plus que tu as un univers à sauver, très cher. »
Une roue passant sur un gros caillou, le véhicule tanga et un des melons faillit tomber. Vif comme l'éclair, le sorcier le rattrapa et le remit avec les autres.
« Mais pourquoi tant de hâte? Pour arriver ici, il nous a fallu des semaines. Si cette prophétie date d'un siècle, il n'y a pas d'urgence. »
« Que Rouge dise vrai ou non, le Seigneur Al nous a chargé d'explorer les marches de son empire et de faire connaître sa parole au peuple. Ici, tout le monde sait qui il est. Notre mission commencera ailleurs. »«
Bien raisonné, »
concéda Nathan à contre-cœur.
« C'est vrai, je suis curieux de découvrir ce colader qu'il me faut absolument voir si on en croit Rouge. »
Baissant les yeux sur sa chemise, le sorcier tenta d'effacer une tache de gras, vestige d'un lapin mangé autour d'un feu de camp, et une auréole de sauce laissée par le meilleur plat qu'un aubergiste leur avait préparé depuis leur départ.
« Avant de lever l'ancre, ma priorité sera de renouveler ma garde-robe. Chez les tailleurs et dans les boutiques de Tanimura, je ne doute pas de trouver mon bonheur. »
La robe de Nietzsche restait en bon état et elle en avait une autre dans son paquetage.
« Tu te soucies trop de vêtements, sorcier ?»
Nathan plissa comiquement le nez.
« Au palais des prophètes, j'ai passé 1000 ans dans des tuniques miteuses. Devenu un homme libre, je revendique mon droit à la coquetterie. »
Nietzsche renonça à polémiquer.
« J'irai au port pour parler au capitaine des quais. Il nous faut les horaires de départ des navires et leur destination. »
Alors que le trafic s'intensifiait, ils passèrent devant des étables et des enclos en plein air, où des bovins, des ovins et des cochons se doraient au soleil, inconscients de leur sombre destin. À la périphérie de la ville, sur un grand terrain, des charpentiers torse nus assemblaient l'ossature de ce qui serait bientôt une tour plus haute que les cheminées fumantes des hauts fourneaux environnants. Muet comme une tombe, le vieux fermier se laissait quasiment guider par son bœuf qui devait connaître la route sur le bout des sabots.
Une fois en ville, le calme campagnard ne fut plus qu'un souvenir. Beuglant à tue-tête, des colporteurs vantaient leurs produits, des passants s'engueulaient et des femmes bavardaient en accrochant leur linge mouillé à des cordes tendues entre les bâtiments. Sur une grande place où s'alignaient les étalages, on vendait des porte-bonheur, des rouleaux de tissu, des figurines sculptées, des poteries émaillées et d'énormes bouquets de fleurs orange et jaune. Quand le fermier prit la direction de ce marché, Nathan et Nietzsche sautèrent du véhicule, prêts à s'aventurer dans le cœur palpitant de la mégalopole. Son équilibre recouvré, Nathan s'assura que son épée était bien en place, tapota une fois de plus son livre de vie, ajusta son paquetage sur son épaule et épousta le devant de sa chemise.
« Ça peut durer un moment, » dit-il. « Dès que j'aurai trouvé un tailleur digne de ce nom, il devra me confectionner une tenue plus adéquate. Il me faut aussi de plus belles bottes. L'ambassadeur du seigneur Hall ne peut pas avoir l'air d'un miséreux. »